Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sommes véritablement, frères et sœurs, préparés en ce septième dimanche du temps ordinaire à ce qui va nous arriver. Si, à partir de ce soir jusqu'à mercredi, le Seigneur n'est pas revenu, ça peut arriver. Et si le Seigneur ne revient pas tout de suite, comme nous l'espérons toujours, à ce moment-là, il pourrait nous arriver que nous rentrions en carême. Alors effectivement, la parole de Dieu nous y prépare bien, puisque nous sommes invités à la perfection, à une perfection dans la charité, ce qui s'appelle la sainteté, et que Dieu, qui est pourtant le plus juste des êtres, qui est le fondement de toute justice et de vérité, et de toute loi, le grand législateur qui donne les commandements, ne veut pas s'arrêter là, mais veut une perfection dans la loi qui est un accomplissement, qui s'appelle la charité et la sainteté. Et donc notre Seigneur nous fait une catéchèse sur la sainteté en partant de la loi, et en montrant comment le chrétien n'est pas légaliste tout en accomplissant la loi, mais est appelé à devenir un saint. Il rappelle l'Ancien Testament, cette fameuse loi du talion qui a fait un énorme progrès social. Il faut savoir que quelqu'un qui volait un verre à son voisin, avant on pourrait lui tirer dessus. Maintenant on se dit, ben, il m'a volé un verre, je me contenterai de lui voler un verre. Œil pour œil, dent pour dent. La juste morale de rétribution, la fameuse loi du talion. Effectivement aussi, on calibrait, on cadrait les rapports sociaux en Israël avec la loi. Et c'est une bonne chose. Simplement, le Seigneur va plus loin. Il nous demande une perfection de charité, d'aimer nos ennemis, de donner encore plus à celui qui demande, et pas simplement ce qui lui est dû de justice. Parce que cela aussi les gens, j'allais dire, pas simplement philanthropes, mais juste selon la loi, le font. Et le chrétien, l'homme saint, qui est appelé à la sainteté, doit avoir une longueur d'âme plus grande qui fait qu'il a un débordement. Il n'est pas simplement dans le légal, il veut être dans la perfection du moral. C'est la vie de charité, la vie de sainteté. Donc le Seigneur nous l'enseigne aujourd'hui, et ça nous prépare justement au carême, où comme le dit l'Église dans la prière de collecte, aide-nous à vivre ta volonté, Seigneur, dans nos actes et nos paroles, à vivre la perfection. Et je voudrais citer un commentaire d'une vénérable qui a vécu entre 1904, c'est une femme laïque donnée à Dieu, et 1964, bon gros 60 ans, qui a vécu dans les milieux sociaux et qui, je pense, a effectivement vécu à fond, ou du moins assez fortement pour en être un témoin et être une vénérable. Quand on est vénérable, on dit que l'Église reconnaît déjà que les vertus humaines ne suffisent pas, qu'elle est assistée, cette personne, par le Saint-Esprit pour être un témoin. Elle n'est pas encore vénérée sur les autels, c'est la béatification, mais déjà, la vénérable, on reconnaît quelque chose de l'œuvre de la grâce dans la personne, l'héroïcité des vertus. Il s'agit de Madeleine d'Elbrel, qui effectivement a vécu une perfection de charité au sein de son devoir d'État, calibré par la loi, et effectivement dans les milieux sociaux qu'elle connaissait, cette assistante sociale qui s'était donnée complètement à Dieu, jusque dans les années 60, ne s'est pas limitée à la loi du talion, et si nous en restions là, il est certain que les crises sociales que nous avons aujourd'hui encore, et pas que dans les cités, ça ne suffirait pas. La société a besoin de saints, et pas simplement d'assistants sociaux. On a besoin d'assistance de sainteté. Et donc Madeleine d'Elbrel dira ces paroles-ci. Dans la mesure où un chrétien professe sa foi, essaie de la vivre, il devient insolite aux croyants comme aux incroyants. L'insolite du chrétien est purement et simplement sa ressemblance avec Jésus-Christ. La ressemblance de Jésus-Christ insérée dans un homme par le baptême et qui, traversant son cœur, arrive comme à fleur de peau. Non seulement il croit en Dieu, mais il doit l'aimer comme un fils aime un père. Tout aimant et tout puissant, à la façon du Christ. Non seulement il aime son prochain comme lui-même, mais doit l'aimer comme le Christ nous a aimés, à la façon du Christ. Non seulement frère de son propre prochain, mais du prochain universel. Non seulement donnant, mais partageant, prêtant, mais ne réclamant pas, disponible à ce qu'on lui demande, mais à plus qu'on ne lui demande. Non seulement frère de ceux qu'il aime, mais de ses ennemis. Non seulement supportant les coups, mais ne s'éloignant pas de qui les donne. Non seulement ne rendant pas le mal, mais pardonnant, oubliant. Non seulement oubliant, mais rendant le bien pour le mal. Non seulement souffrant, mis à mort par certains, mais mourant, souffrant pour eux. Non seulement une fois, mais chaque fois. Non seulement partageant ce qu'il a, lui, en elle ou en lui, mais donnant la seule chose que Dieu lui ait donnée, en propre, sa propre vie. Non seulement il est heureux parce qu'il vit grâce à Dieu et pour Dieu, mais parce qu'il vivra et fera vivre ses frères avec Dieu pour toujours. Voilà quelqu'un qui veut vraiment accomplir la loi, qui ne se contente pas du donnant-donnant, œil pour œil, dent pour dent, mais qui veut vivre de manière extraordinaire l'ordinaire, et qui veut entendre au sérieux la parole, j'allais dire l'apostrophe du Seigneur. « Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ?» C'est comme si le Seigneur nous disait « Tu dois faire des choses extraordinaires. » Tu appelais à une forme de vie extraordinaire dans l'ordinaire. Ta vie de sainteté et ton carême, ça va être de vivre intensivement cet appel. Voilà l'enseignement moral que nous donne aujourd'hui le Seigneur. Intensification de notre vie chrétienne. Mais il faudrait peut-être le replacer dans la perspective globale. Vers où on va? À quoi ça sert? C'est quoi le but de notre vie? Et effectivement, le Seigneur situe grandement les choses, tant dans le Lévitique que aussi dans la première épître de saint Paul aux Corinthiens, qui au fond est inscrit dans notre baptême et qui au fond est le terme de notre destinée au ciel. C'est quoi? C'est notre sacerdoce. C'est le fait d'exercer la vertu cultuelle, la vertu de religion, naturelle et surnaturelle. On est fait pour louer, adorer Dieu. Et la conséquence de ça, c'est notre agir moral, qui rend un culte à Dieu. Alors dit comme ça, c'est un peu technique, mais on va préciser les choses. Tout d'abord, le livre des Lévites, un des cinq livres du Pentateuch, la Torah juive, c'est le livre des prêtres dans l'Ancien Testament, les Lévites. Donc les prêtres étaient une des 12 tribus d'Israël mises à part, qui se transmettaient le sacerdoce juif de l'époque, de père en fils, ça a commencé avec Aaron. Ils se le transmettaient pour rendre un culte à Dieu. Ils étaient séparés pour s'approcher du seul qui est saint. Et ils rendaient un culte à Dieu en offrant les prémices, les fruits des récoltes, des sacrifices d'holocauste, d'expiation, d'actions de grâce, etc. Et Dieu parle aux prêtres. Et effectivement, Dieu parle aussi à Moïse et à Aaron. Et Dieu dit dans le livre des prêtres, le livre des Lévites, le livre en fait du culte, Israël, soyez saints, car moi, le Seigneur, je suis saint. L'appel à la sainteté. Cet appel que nous avons reçu au baptême, que le Concile Vatican II a rappelé, cet appel qui reprit avec le Christ dans la finale de cet évangile, soyez parfaits, car votre Père céleste est parfait. Cet appel même qui reprit littéralement dans la première épître de saint Pierre au chapitre 1, verset 16, soyez saints, car je suis saint, l'appel à la sainteté. Donc c'est notre destinée. Et elle s'origine dans le culte. C'est reçu cet appel la première fois dans l'offrande sacerdotale des Lévites. Et c'est exactement ce qu'on retrouve en saint Paul, puisque saint Paul nous parle d'un temple. Nous sommes le lieu où on fait le culte, le temple, et le temple c'est nous. Très intéressant, pourquoi? Parce que Dieu vit en nous. Donc si tu vis correctement, selon la loi, et tu l'accomplis avec la perfection de la charité, en fait tu vis en présence de Dieu. Donc tu exerces un culte dans ta vie. Bref, ce que tu célèbres dans le cultuel rituel, tu es appelé à le vivre dans l'existentiel. Donc c'est notre cheminement moral qui est en fait une offrande, un holocauste à Dieu. Ma vie concrète, c'est un encens devant le Très-Haut. Et c'est ce que je ferai au ciel. Et c'est depuis mon appel de baptiser. Et quand Dieu intensifie cela en rappelant le livre des Lévites, la première épître de saint Paul aux Corinthiens,
comme la perfection morale. Dans l'évangile de saint Matthieu, il nous donne notre vocation. Si jamais vous allez à l'église Notre-Dame, qui est sur à la Roche-sur-Yon, qui est une des églises de notre paroisse, regardez l'autel en bas. Je l'ai assez frappé récemment de voir le bas-relief. Parce que le bas-relief, en fait, il explique le sacerdoce de l'Ancien Testament. Sur la gauche, vous avez un monsieur bien habillé et tout, qui amène du pain et une coupe. On dit, c'est qui ce gars? Ce gars, c'est Melchisedec, qui apporte dans Genèse 15 le pain et le vin à Abraham. Il est prêtre du Très-Haut. Et dans le Nouveau Testament, on dira que le Christ est prêtre à la manière de Melchisedec. À droite du bas-relief, au milieu, il y a le Christ, très connu, des chrétiens. À droite, on a un homme avec un agneau et un bûcher. On se dit, c'est Jean-Baptiste, c'est qui? En fait, c'est Abel. Abel, le frère de Caïn, qui, le premier dans la Genèse, fait une offrande à Dieu. En fait, une offrande sacerdotale. Il offre ce qu'il a reçu à Dieu, ses prémices. Et c'est agréé, tandis que Caïn, lui, il est jaloux, donc il tue son frère. Parce que son sacrifice, lui, il est paysan, ça ne marche pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis l'origine des temps, l'être humain est fait pour offrir quelque chose à Dieu. Avec Adam et Ève, ce n'est pas encore la religion juive, ce n'est pas encore le christianisme. C'est dans l'être humain naturellement d'avoir la vertu de religion et de rendre un culte à Dieu. Ça, c'est naturel. C'est la justice primordiale. Dans la vertu justice, le fondement, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Et au niveau de la religion naturelle, le Créateur, il a droit à notre hommage. Donc il est normal que nous rendions un hommage à Dieu. Après, effectivement, on rentre avec la grâce. En Israël, avec la présence de Dieu dans la tente de la rencontre et les Lévites. Et chez nous, c'est encore plus fort, parce que la tente de la rencontre, elle est depuis notre baptême en nous. Et donc, il est normal de rendre un culte à Dieu. Et donc, ton agir moral, c'est pour rendre un culte à Dieu, comme Abel, comme Melchisedec, comme les Lévites, mais de manière maximale dans ta vie. Et ton devoir d'État, comme Madeleine Delbrel, tu dois le vivre comme un encens pour l'offrir à Dieu. Et le carême va servir à intensifier ça. Donc je trouve que c'est une belle parole programmatique de notre Seigneur pour nous préparer au carême. Et au fond du fond, qu'est-ce qu'on va faire en faisant ça? On va simplement illustrer la première parole qu'on dit tous les jours de notre vie. Que ton nom soit sanctifié. Première prière, vous savez, en Notre Père, il y a sept prières, c'est une plénitude, c'est comme sept jours de la semaine, sept sacrements. Le Notre Père, la première prière, c'est que ton nom soit sanctifié. Alors nous, on s'intéresse beaucoup à la quatrième, parce qu'on se dit, c'est donne-moi ce que j'ai besoin, donne-moi le pain de ce jour. Sous-entendu, on oublie les trois premières. Les trois premières, elles sont vraiment référées fondamentalement à Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Bref, la quatrième, elle sera accordée que si elle correspond aux trois premières. Or, la première, c'est la plus forte. C'est justement de sanctifier le nom de Dieu de deux manières. Le prononcer avec adoration et jamais par négligence. C'est ce qui est demandé dans le décalogue. Pas de blasphème, pas de juron. Respecter Dieu, le nom de Dieu. D'ailleurs, tu as été baptisé dans le nom de Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit. Vénérer le nom de Dieu à la messe, partout. L'hommage, l'adoration. Mais aussi, ta vie doit faire que le saint se voit autour de toi. D'ailleurs, épître de saint Pierre comme Lévitique, « Soyez saints car je suis saint ». Tu feras connaître le nom de Dieu parce que tu le portes depuis le baptême en ayant une vie sainte, morale. Donc c'est notre premier appel. Et le Seigneur nous redonne ce programme de sainteté cultuelle, rituelle, existentielle, le tout fait un, pour nous préparer au baptême, justement à la confirmation. Et c'est ce qu'on va faire au ciel. Et au ciel, que font les anges et les bienheureux, et peut-être aussi les vénérables? Ils louent le nom de Dieu dans tout leur être. Donc, frères et sœurs, retrouvons notre sacerdoce baptismal et ministériel. C'est notre première vocation. Nous sommes faits pour louer, rendre un culte à Dieu dans ton agir et dans tes rites. Et Dieu nous rappelle cela fondamentalement. Et c'est pour ça que nous voulons vivre excellemment notre devoir d'État. Pas simplement de manière légaliste, mais à la perfection, pour louer, adorer, faire rayonner le nom de Dieu. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.